Bonjour à tous. Pour la prédication de ce matin, je me suis posé beaucoup de questions. Que dire? Quoi aborder? Je pense que vous savez pourquoi je me suis posé ces questions. La semaine a été difficile pour beaucoup, difficile pour notre pays, difficile même dans l'image que ça a renvoyé au monde entier. Et j'aimerais ce matin que nous étudions ensemble un texte qui lui aussi n'est pas très confortable. Un texte qui est très connu, extrêmement connu, je pense, mais qui nous confronte à ce qu'il y a peut-être de plus sombre, de plus mauvais en nous. Vous l'aurez compris, c'est un texte qui fait écho à ce que notre pays a pu vivre ces derniers jours. Mais au-delà de la part d'ombre qui peut exister en chacun d'entre nous, c'est aussi et même avant tout un texte dans lequel Dieu fait appel à ce qu'il y a de meilleur chez l'être humain. Un texte qui raconte des événements terribles, mais qui est un appel à se tourner vers Dieu, vers sa volonté, vers le bien, vers l'amour et vers la compréhension de l'autre. Je vous invite à lire ensemble ce récit très connu dans le chapitre 4 de la Genèse, les versets 1 à 8. L'homme s'unit à Ève, sa femme. Elle devint enceinte et donna naissance à Caïn. Elle dit, avec l'aide de l'Éternel, j'ai formé un homme. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel devint berger et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel, de son côté, présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn se mit dans une grande colère et son visage s'assombrit. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi te mets-tu en colère et pourquoi ton visage est-il sombre? Si tu agis bien, tu te relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Son désir se porte vers toi, mais toi, maîtrise-le. » Mais Caïn dit à son frère Abel, « Allons au champ. » Et lorsqu'ils furent dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Ce texte montre un contraste extrême. C'est peut-être pour ça aussi qu'il est aussi troublant. Il débute par l'émerveillement d'Ève lors de la venue au monde de son premier enfant. Le début de la Genèse nous raconte comment Dieu façonna l'homme et la femme. Adam et Ève sont présentés comme des êtres humains qui ne sont pas nés par une voie que nous pourrions appeler les voies naturelles, comme nous tous. Ils nous sont présentés comme directement façonnés par Dieu. Et pour Ève, qui a été directement façonnée par Dieu, voir que par elle, la vie vient de naître, c'est quelque chose d'extraordinaire, de magnifique, d'incroyable. Je pense que ça reste toujours aussi magnifique pour chaque femme lors de la naissance d'un enfant, mais pour Ève qui, elle, a été façonnée directement par Dieu, n'a pas connu cet événement-là elle-même en étant enfant, c'est d'autant plus incroyable de voir qu'elle participe à donner la vie. Elle sait que c'est Dieu qui donne la vie. Elle le sait même mieux que personne, Dieu l'a façonnée directement. Mais avec la naissance de son premier enfant, Caïn, elle prend conscience que Dieu a permis qu'elle participe à donner la vie. C'est ce qu'elle exprime dans son émerveillement et sa joie. Avec l'aide de l'Éternel, j'ai formé un homme. C'est un enseignement primordial que nous donne ce texte. La vie, ce n'est pas une chose banale que l'on peut donner ou reprendre selon notre bon vouloir. La vie n'est pas le fruit de la volonté humaine. Les humains participent à donner la vie et Ève s'en émerveille en disant « j'ai formé un homme ». Mais la vie est avant tout le cadeau le plus précieux que Dieu donne à chaque être humain. Et Ève le déclare quand elle dit que si effectivement elle a formé un homme, c'est avec l'aide de l'Éternel. C'est un cadeau précieux que Dieu nous accorde, mais il ne nous l'accorde pas uniquement le jour de notre conception ou de notre naissance. C'est un cadeau de chaque instant. Dieu nous donne la vie à tout moment. Et si Dieu s'arrêtait, ne serait-ce qu'un instant, de nous donner ce cadeau de la vie, eh bien, nous la perdrions. La vie est un cadeau unique, précieux, que Dieu donne gratuitement par amour pour nous. Et ce cadeau, si beau, si fragile, nous devons le chérir, nous devons en prendre soin, nous devons le respecter, nous devons l'honorer. Et nous devons aussi remercier jour après jour notre Créateur pour ce don qu'il nous accorde à chaque instant. Ce cadeau de la vie est présenté deux fois dans le début de notre texte, d'abord par la naissance de Caïn, puis par celle de son frère, Abel. Et vous savez que bien souvent les noms bibliques ont un sens important. Avec Caïn, nous avons vu l'émerveillement face au cadeau de la vie. Eh bien ce nom, Caïn, signifie « acquérir, produire, procréer ». Il est en lien avec l'émerveillement d'Ève lors de cette naissance. Avec Abel et sa fin tragique, nous voyons toute la fragilité de ce cadeau qu'est la vie. Et ce nom, Abel, signifie « souffle, vanité, buée ». Ce nom est en lien avec la brièveté de la vie de celui à qui il est donné. Ces deux enfants grandissent comme des frères normaux. Ils ont des centres d'intérêt différents et ils se dirigent tout naturellement vers des professions différentes. Le texte nous raconte que Caïn devient cultivateur quand Abel, lui, devient berger. Deux professions qui sont toutes deux aussi très marquées par la dépendance à Dieu. Parce que tout comme Dieu donne la vie aux êtres humains, c'est aussi Dieu qui donne la vie aux plantes et aux animaux. Caïn et Abel, cultivateurs et bergers, vivent jusque dans leur profession une grande dépendance vis-à-vis de Dieu. Et ils désirent, tout naturellement, chacun exprimer leur gratitude envers leur Créateur. Et ils le font en offrant à Dieu une partie du fruit de leur travail. Caïn, cultivateur, offre des produits de la terre. Abel, berger, offre le premier-né de son troupeau. Et selon notre texte, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande, mais pas sur Caïn et son offrande. Mais le texte ne nous en donne pas la raison. Pourquoi Dieu a-t-il regardé favorablement l'offrande de l'un et pas celle de l'autre? Le texte ne le dit pas, mais nous pouvons essayer de l'imaginer. Certains pensent que c'est la nature de l'offrande qui fait la différence. Dieu apprécierait une offrande de bétail, mais pas une offrande de produits de la terre. Malheureusement, je pense que ça ne fonctionne pas. Parce que lorsque Dieu donnera plus tard à Moïse des lois sur les offrandes et les sacrifices qui lui sont faits, il y aura effectivement des lois qui concernent des offrandes faites de bétail ou d'animaux, mais également des offrandes de céréales et même des offrandes de farine qui doivent être brûlées sur l'autel en l'honneur de l'Éternel. La nature de l'offrande ne semble pas importer aux yeux de Dieu. Et si nous rapportons cela à nous-mêmes, aujourd'hui, quelles sont les offrandes que nous faisons à Dieu? Le Nouveau Testament nous appelle à faire des sacrifices de louange et d'adoration. Nos offrandes à Dieu sont notre louange et notre adoration. Mais est-ce que la nature de cette offrande compte ? Est-ce qu'offrir à Dieu, par exemple, un chant au lieu d'une prière a son importance ? Bien sûr que non. Ce n'est pas la nature de ce qui est offert qui entraîne que Dieu y soit favorable ou non. En revanche, cela pourrait très bien être l'intention dans laquelle l'offrande est faite, l'intention du cœur. Est-ce que l'offrande est faite par reconnaissance ou bien seulement par tradition ou par habitude ? Dans ce cas, en revenant à notre texte, cela signifierait qu'Abel a fait son offrande avec reconnaissance, mais que Caïn l'aurait fait de manière plus rituelle ou par obligation. C'est tout à fait possible. Et le texte nous donne d'ailleurs un petit indice qui peut nous amener à penser dans ce sens. Il nous dit que Caïn fait une offrande de produits de la terre, mais pour Abel, le texte précise qu'il offre ce que son troupeau comporte de meilleur. Sous-entendu que Caïn, lui, n'offre pas ce qu'il a de meilleur. Dieu peut avoir accepté l'offrande d'Abel car il faisait cette offrande par amour et par reconnaissance envers Dieu. En revanche, peut-être que Caïn n'avait pas les mêmes dispositions intérieures, ce qui expliquerait que Dieu refuse son offrande. C'est possible, mais le texte ne l'affirme pas. Alors, pourquoi ne le fait-il pas ? Pourquoi le texte ne nous dit pas directement que Dieu refusa l'offrande de Caïn pour telle raison ? Eh bien, je pense que c'est justement pour mettre en avant la liberté de Dieu. Dieu est libre d'accepter ou de refuser une offrande. Il n'est pas conditionné même par nos intentions. Ce n'est pas parce que nous faisons une offrande à Dieu avec un cœur sincère que Dieu est obligé d'accepter cette offrande. Dieu est libre. Il n'est pas contraint par les intentions des hommes. Et je pense que ce texte met avant tout en avant cette liberté de Dieu. Une liberté qui ne doit pas nous décourager, mais qui doit nous pousser à l'humilité, à reconnaître que Dieu est autre que nous, qu'il est libre quand nous ne le sommes pas. Ça doit nous pousser à l'humilité. Mais Caïn, lui, n'y voit pas un sujet d'humilité. Il voit seulement que l'offrande de son frère a été acceptée, elle. C'est pour lui un sujet de jalousie et de colère. Jusque-là, notre texte nous montrait ce qu'il y a de beau dans l'humanité. La joie de la procréation, le cadeau de la naissance d'un enfant, le don de la vie, la bénédiction de Dieu dans le travail qui produit du fruit, la beauté de la reconnaissance de l'homme envers son Dieu. Mais maintenant, le texte nous plonge dans ce qu'il y a de pire en l'être humain, avec ces quelques mots. Caïn se mit dans une grande colère et son visage s'assombrit. Effectivement, il y a des choses magnifiques dans l'être humain et la plupart des hommes recherchent le bien, recherchent la paix, le partage, l'accueil, la compassion, l'entraide, l'amour, l'amitié. Mais en chacun d'entre nous, il y a aussi cette part de mal qui peut nous pousser à la colère, la jalousie, l'orgueil, le mensonge, ou tout simplement la méchanceté. Dieu le sait. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il sait de quel bois nous sommes faits. Mais il ne nous laisse pas seuls face à ce mal qui est en nous. En effet, Caïn se met en colère, mais Dieu l'interpelle avant que ça ne dérape. Il lui demande « Pourquoi te mets-tu en colère et pourquoi ton visage est-il sombre ?» Dieu connaît bien évidemment déjà la réponse, mais il vient titiller la conscience de Caïn. Il vient l'interpeller, il vient le faire se questionner. Et une fois que Caïn est entré dans ce questionnement, dans cette introspection, il lui donne alors des conseils, des moyens pour rester sur le bon chemin. Dieu lui dit ceci, Le péché est tapis à ta porte. Son désir se porte vers toi, mais toi, maîtrise-le. Dieu nous demande d'être clairvoyants sur nous-mêmes, sur notre condition humaine. Oui, nous sommes très certainement des hommes et des femmes de bien, qui cherchons le bien, qui pratiquons le bien. Mais soyons lucides, nous ne sommes pas que ça. Il y a aussi une part de mal en nous, et le désir du péché se porte aussi également vers nous. Alors, Dieu nous exhorte. Il nous appelle à nous tourner vers lui, à résister, à ne pas devenir esclaves de la volonté de ce mal qui est tapis à notre porte. Et Dieu nous appelle à rechercher sa présence, son aide, son soutien pour y parvenir. Il ne nous laisse pas seuls face à un défi qui serait insurmontable pour nous. Non, il veut nous aider. Et il veut nous aider à un point tel qu'il est allé jusqu'à donner la vie de son Fils pour effacer l'ardoise de notre péché. Et il est venu par son Esprit habiter en nous, pour nous guider, pour nous apaiser, pour nous protéger et pour nous aider sur notre chemin de vie. Nous aider à la fois dans la pratique et la recherche du bien, du bon, mais aussi dans la résistance au mal. Dieu appelle Caïn à choisir de servir Dieu et sa volonté, et ainsi de faire le bien, ou bien choisir l'esclavage du péché et ainsi pratiquer le mal. Dans le livre du Deutéronome, Dieu rappelle ce choix à l'homme avec des mots différents. Dans ce passage, il nous dit « Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie afin que vous viviez. » Que choisissons-nous pour notre vie ? Suivre Dieu et pratiquer le bien, ou devenir esclave de ce péché qui se tapit à notre porte et rechercher le mal ? Caïn ici se trouve à un carrefour. Il s'est mis en colère, il est jaloux, mais c'est juste le résultat de sa condition humaine. Il n'a encore rien commis de condamnable. Ce n'est pas parce que nous avons une part d'ombre en nous que nous sommes mauvais. Non, nous avons le choix. Et je vais emprunter les paroles d'un personnage de fiction, un personnage de roman pour adolescents, qui s'appelle Albus Dumbledore, que peut-être certains connaissent, et qui disait à un petit garçon ces quelques mots. « Ce ne sont pas nos capacités qui font de nous ce que nous sommes, ce sont nos choix. » Nous avons tous la capacité de faire le bien. Nous avons aussi tous la capacité de faire le mal. Mais ce qui importe, c'est ce que nous décidons de répondre à l'appel que nous lance notre Seigneur. Dans notre texte, Caïn a choisi. Il a choisi l'esclavage du péché qui, dans son cas, l'a conduit au meurtre de son frère. De la même manière, cette semaine, les hommes qui ont commis ces atrocités ont fait un choix. Ils ont choisi l'esclavage du péché qui les a également conduits au meurtre. Si ces événements nous déroutent autant, s'ils nous bouleversent tellement, c'est peut-être en partie parce qu'ils nous font aussi prendre conscience que l'être humain n'est pas parfaitement bon. Ces drames extrêmes nous confrontent à la fois au mal qui est dans ce monde, mais aussi peut-être au mal qui est en nous-mêmes. Et j'avais envie ce matin de vous rappeler ce que Dieu a dit à Caïn. Caïn qui prenait également conscience à cet instant du mal qui est en lui. Ne vous laissez pas troubler. Soyez conscient de ce que vous êtes, certes, mais que cette conscience ne vous mène pas au trouble. Qu'elle vous pousse au contraire à répondre à l'appel que Dieu nous lance. Au choix qui se présente à nous. Choisissons la vie, choisissons le bien. Tournons-nous vers ce Dieu qui peut nous donner sa force, sa bonté, son amour et sa paix. Acceptons le Christ qui est venu régler le problème de ce mal qui est en nous. Et recevons l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui est notre guide, qui est notre protecteur et notre consolateur dans notre chemin de vie. Et si nous faisons ce choix, si nous acceptons ce cadeau que Dieu nous fait, n'oublions pas qu'il ne nous est pas réservé. N'oublions pas que nous ne sommes pas les seuls qui aient besoin d'entendre cet appel. Mais ayons à cœur d'apporter aussi ce témoignage autour de nous, par nos paroles et par nos actes. Dieu nous appelle à faire un choix. Il dit qu'il place devant nous la vie et la mort, et il nous appelle à choisir la vie. Et il nous indique aussi le chemin qui mène à la vie. Car voici ce que déclare le Christ. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Amen.